Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Éclairage, je vous propose de vous pencher sur l'avenir de la recherche sur le cerveau. Tout d'abord, quelques chiffres. Une étude du European Brain Council en 2003 note que 27% de la population européenne souffre d'une maladie du cerveau, avec des dépenses qui atteignent 386 milliards d'euros par an. Au rang des pathologies du cerveau que l'on traite le plus souvent, on retrouve les troubles du mouvement, du comportement, les douleurs, les céphalées, les pathologies cérébrovasculaires, les cancers des systèmes nerveux, les troubles du sommeil et les pathologies psychiatriques. Parler des pathologies du cerveau est donc un vaste sujet dont nous allons, en compagnie de nos deux invités, esquisser les contours des recherches à accentuer dans les décennies à venir. Joël Bockaert, André Niolon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Joël Bockaert, vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Université Montpellier 1, directeur de l'Institut de génomique fonctionnelle, unité mixte de recherche CNRS INSERM Université de Montpellier. André Niolon, vous êtes professeur de neurosciences et de neuropharmacologie. Vous travaillez à l'Institut de biologie du développement de Marseille-Lumini, unité mixte de recherche CNRS Université de la Méditerranée, et vous vous intéressez plus spécifiquement à la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Et j'ajoute que vous êtes président de la Société de neurosciences. Alors tous les deux, vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage « Priorité cerveau, des découvertes au traitement » aux éditions Odile Jacob en septembre 2010, sous la direction du professeur Olivier Lyon-Camp et du docteur Étienne Hirsch. Et j'ajoute qu'on y retrouve une contribution de nombreux chercheurs, notamment d'académiciens des sciences comme Christine Petit ou Stanislas Dehaene. Un livre qui fait suite à un colloque organisé fin septembre 2010 pour insister sur la nécessité de la recherche sur le cerveau, car mieux comprendre son fonctionnement, c'est aussi travailler à des traitements plus appropriés. André Niolon, Joël Bockaert, à travers votre livre « Priorité cerveau » et le colloque qui l'a précédé, on a l'impression que la recherche ne porte que très peu sur le cerveau. Vous dites avoir besoin d'une recherche fondamentale plus forte. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas, André Niolon?
Oui, la recherche sur le cerveau en France est particulièrement développée, c'est vrai, puisque nous représentons la première société européenne sur les 29 sociétés de l'Union. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut associer le fait que l'école de neurologie française est une école qui a irradié dans le monde entier. Donc, c'est traditionnellement une référence. Donc, cette recherche en neurosciences est particulièrement importante. On compte schématiquement à peu près 3000 chercheurs dans 500 équipes. Et ceci, bien sûr, auquel il faut associer les jeunes en formation, puisqu'il y a de très nombreux doctorants dans nos laboratoires qui sont formés actuellement aux recherches de pointe dans le domaine des neurosciences.
Joël Bockaert, sur ce point.
Évidemment, je dirais que la recherche sur le cerveau en France et dans le monde, est particulièrement active. Cependant, quand on regarde bien la complexité de notre cerveau et la complexité des problèmes qui sont à résoudre, on peut dire qu'on est loin, bien entendu, de la finalité qui est en fait de comprendre effectivement à la fois la physiologie. Des exemples simples, comprendre ce que c'est que la mémoire, on sait beaucoup de choses, mais quand même on ignore encore l'essentiel, comprendre bien sûr ce que c'est que la conscience, le raisonnement, etc. Là, on est vraiment très loin. Et donc il faut, priorité cerveau, évidemment, j'adhère tout à fait aux 10 priorités qui ont été énoncées, mais bon, il est assez difficile de mettre des priorités quand on ne sait pas exactement où il faut chercher. Et voilà, donc... Je pense qu'il faut chercher dans toutes les directions et activement, c'est ça l'essentiel.
Vous parlez des 10 priorités, nous en parlerons à la fin de cette émission. Auparavant, justement, vous avez un mot fort, vous dites qu'on manque de concept. Alors, oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette idée de concept?
De concept, bon, alors je prendrai un exemple. Bon, par exemple, on sait très bien qu'une molécule est formée d'atomes. Là, tout le monde le sait. On peut décrire les atomes, point de vue chimique et physique. Mais si on veut expliquer, compte tenu de ce qu'on sait sur ces atomes et éventuellement de leur interaction, comment fonctionne une molécule, on en serait probablement incapable. C'est-à-dire que d'éléments élémentaires dont on peut faire la description et oui, l'étude, émergent bien sûr dans le cerveau des propriétés d'un ordre de grandeur supérieur, et relier les deux n'est pas facile. Et c'est tout l'enjeu de la compréhension du cerveau. Et là, on manque de concepts, on manque totalement de concepts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie, on pourrait dire qu'il n'y a pas de théorie du cerveau. En le disant rapidement, c'est vrai qu'il y a des théories, on dit, bon, par exemple pour la mémoire, je prends un exemple mémoire, c'est un bon exemple parce que des progrès énormes ont été faits sur la compréhension de la mémoire. On sait très bien au niveau moléculaire que beaucoup de choses se passent. Au niveau des synapses, des protéines sont attisées, d'autres sont inhibées. Il y a un remodelage de ce qu'on appelle des épines de la synapse, etc. Et donc, on voit très bien qu'avant et après avoir mémorisé quelque chose, des changements se passent. Bon, mais après, on sait aussi que cette mémoire est transitoire et qu'ensuite, si la mémoire à long terme est stockée quelque part dans le cerveau, on dit qu'elle migre vers le cortex. Mais où, comment, comment tout ça est rappelé? Alors, on dit qu'il y a des réseaux. Alors, effectivement, il y a des gens qui essayent de trouver des corrélations ou des activités qui pourraient être impliquées dans ces réseaux. Mais bon, en fait, au-delà de ces effets primaires, on n'a pas de concept, voilà, fondamental. Donc, c'est relativement difficile de chercher quand on n'a pas de direction. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans toutes les directions. Ça, c'est mon point de vue.
Alors, nous allons parler, vous parliez de la mémoire à l'instant, on va en reparler. Nous allons parler aussi du stress, du sommeil, de la douleur. André Dulonde, de quels chiffres on dispose pour parler des pathologies de la mémoire en France, par exemple?
Alors, les pathologies de la mémoire sont probablement les pathologies les plus fréquentes. Avec les troubles du sommeil, ce sont celles, en tout cas, qui font l'objet de plus de consultations chez les médecins et généralistes en particulier. Donc, il y a effectivement un très grand nombre de problématiques qui doivent être mises en avant, s'agissant de la mémoire, s'agissant du sommeil, s'agissant de la douleur, probablement un domaine sous-estimé. Et puis, il y a tout le domaine des pathologies psychiatriques, au-delà, bien sûr, des pathologies dégénératives de type Alzheimer qui sont très médiatisées. Donc, s'agissant de ces pathologies psychiatriques, pour l'instant, nous devons faire preuve d'humilité parce que nos connaissances sont extrêmement limitées. Et probablement, c'est l'un des domaines dans lesquels nous devons faire un effort de développement des recherches parce que sous-développé dans notre pays. Si l'on rajoute à cela le domaine des addictions, et donc les addictions, ça démarre aussi avec le tabac et l'alcool, eh bien là, on frise 30% de la population qui est concernée à un moment ou à un autre par des troubles neurologiques ou psychiatriques plus ou moins durables. Et donc ceci, évidemment, a un coût social qui est tout à fait considérable. Et les choses ne s'arrangent pas puisque, par chance, nous avons une population qui vieillit et qui vieillit de plus en plus longtemps. Mais la contrepartie, c'est que dans le domaine des maladies neurologiques et psychiatriques, eh bien, il y a une incidence de ce vieillissement qui font que, malheureusement, plus on est âgé, plus la probabilité d'avoir une de ces pathologies augmente. Et donc, l'un des signaux que nous souhaitons faire passer à la population et puis aussi, bien sûr, au pouvoir public, c'est de dire attention, il y a aujourd'hui un coût social qui est tout à fait considérable, de l'ordre de 35% des dépenses de santé actuellement. Et si on ne fait rien pour essayer évidemment de trouver des solutions à ces pathologies, eh bien, la situation va encore s'aggraver du fait du vieillissement de la population.
Avec le quinquennat du président de la République, Nicolas Sarkozy, le plan Alzheimer a été mis en route. Est-ce que cela ne vous suffit pas pour travailler dans le domaine des neurosciences?
Alors, le plan Alzheimer était vraisemblablement une étape nécessaire pour sensibiliser, en tout cas, du fait du poids social que représente la maladie d'Alzheimer, était une étape nécessaire pour pouvoir sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics au fait qu'il fallait accentuer les recherches sur le cerveau, mais ce n'est qu'une étape, ce n'est pas suffisant. Et en tout état de cause, l'aspect recherche du plan Alzheimer est trop réducteur pour couvrir l'ensemble des besoins et des nécessités dans le domaine des sciences du cerveau, que ce soit les sciences neurologiques et les sciences psychiatriques.
Alors, intéressons-nous, si vous voulez, pendant quelques instants à la douleur. Est-ce que nous sommes égaux face à la douleur, Joël Bouquert?
Non. Non, pour plusieurs raisons. D'abord, on sait très bien, effectivement, maintenant que... Alors, je parlerai effectivement de génomique, puisque, voilà, vous me lancez l'hameçon. Bon, la complexité, on en a parlé. La complexité sur le plan, bien sûr, de l'expression des gènes et de la variabilité interindividuelle dans l'expression des gènes est énorme. Et effectivement, on connaît maintenant un polymorphisme, c'est-à-dire une différence entre individus, qui rend ces individus plus ou moins sensibles à la douleur. Ça, c'est au niveau moléculaire local, si on peut dire, ou même pas nécessairement local. Et puis après, il y a bien sûr des facteurs psychologiques qui se greffent sur la douleur et comment on ressent la douleur par rapport à son passé, bien sûr, éventuellement par rapport à sa famille. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, donc on n'est pas ni génétiquement, ni environnementalement, comme on dit maintenant, égaux devant la douleur.
Est-ce qu'il faut travailler sur les neuromodulateurs, ceux qui nous permettent de transmettre les états de l'humeur, par exemple ?
Ah ben, il faut travailler sur, voilà, donc j'ai dit surtout, voilà. Mais en disant ça, bien sûr, on peut dire, mais bien sûr, on peut partir, il ne se mouille pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que le champ est énorme, hein, il faut travailler. Alors, je prendrai quelques exemples. Hein. Travailler sur le développement, puisqu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de maladies psychiatriques, dans la schizophrénie, l'autisme, qui sont peut-être ou probablement des maladies du développement. Il faut travailler sur, bien entendu, comme vous avez dit, la pharmacologie, la neuropharmacologie, parce que quand même, les médicaments, en tout cas en neurologie, mais aussi en psychiatrie, et surtout d'ailleurs en psychiatrie, sont des molécules chimiques qui ont été synthétisées pour la plupart du temps par l'industrie pharmaceutique, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antimigraineux, etc., etc. Moi, je l'ai dit lors de ce colloque, et je le pense vraiment, il y a un frein sur la recherche en pharmacologie actuellement, à la fois dans le domaine académique. Je me plais à dire qu'il n'y a pas de département de pharmacologie dans les universités françaises, et ça m'énerve depuis des années, mais enfin bon, on ne changera pas la situation rapidement. Et puis l'industrie pharmaceutique, ce qui est aussi grave, en partie se désengage du système nerveux central. Donc il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques, je ne citerai pas les noms, mais qui ferment leur département de neuropharmacologie. Pour plusieurs raisons, certaines sont évidentes, hein, sont reliées à ce que j'ai dit tout à l'heure, la complexité. Donc quand ça devient complexe, ça devient long. Quand ça devient long, c'est difficilement rentable. Et c'est les échecs ont été nombreux aussi, puisque bon, les échecs sont liés à beaucoup de choses aussi. Ils sont liés au fait de la difficulté, mais sont aussi liés aux normes réglementaires. Et sitôt, évidemment, qu'on touche au cerveau, on peut imaginer que des médicaments ont des effets secondaires, comme tout médicament a nécessairement quelques effets secondaires, qui sont difficilement acceptables par toutes les régulations et la population. Donc, moi, je pense que c'est assez préoccupant. Alors que, justement, comme je disais André, on a besoin de nouveaux médicaments. Alors, les industries, dans les laboratoires, on se penche plutôt sur des choses, bien sûr, très importantes et très intéressantes, et qu'il faut faire aussi, plus complexes aussi. Mais il faut bien des médicaments à la fin. Et pour l'instant, on peut très difficilement utiliser des anticorps, encore que ça vient progressivement. On peut difficilement utiliser la thérapie génique, hein, on en est loin. Et donc le médicament reste vraiment indispensable pour traiter toutes ces pathologies.
André Nulot, sur ce point, vous souhaitiez rajouter un élément ?
Une remarque importante, je crois que là, il faut rejoindre ce que disait Joël Bocquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, on est devant une situation où l'innovation thérapeutique se heurte à un manque de conceptualisation. Je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les recherches dans ce domaine, dans le domaine du médicament et du traitement, vont toutes dans la même direction. Elles partent d'observations qui sont physiopathologiques, qui sont bien connues. Et en fait, elles sont un petit peu limitées à ces inclusions protéiques, puisqu'il s'agit de cela. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il n'y a plus d'innovation thérapeutique dans ces domaines, en particulier dans la maladie de Parkinson. Et donc, je crois que si véritablement on veut avancer et trouver de nouveaux médicaments qui soient utiles dans cette maladie, il faut impérativement que nous ayons accès à de nouveaux concepts. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à faire ce que nous faisons, y compris au niveau de l'industrie pharmaceutique, si nous voulons réellement trouver de nouvelles solutions thérapeutiques dans ce domaine.
Bernard Giraud-Chomeil, qui est ancien président de la Haute Autorité de Santé, qui prône une innovation, une rupture, il précise en ce sens qu'il ne faut pas faire de la médecine répétitive, mais constructive.
C'est exactement cela. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, la médecine répétitive a montré ses limites. Technologiquement, tout ce qui pouvait être fait a été fait, parce qu'en fait, il y a des progrès technologiques. Je pense à l'imagerie cérébrale, par exemple. Mais dans le domaine de l'innovation, je crois que là, il y a un saut conceptuel à réaliser. Et pour l'instant, nous sommes un petit peu devant un mur. Alors, d'où peuvent venir les progrès ? Eh bien, ils peuvent venir de la recherche fondamentale, c'est-à-dire d'une recherche qui, finalement, va s'attaquer à mieux préciser les concepts de l'organisation anatomique et fonctionnelle du système nerveux. Et ceci va, ou devrait permettre, en tout cas, Joël Bocquert et moi-même travaillons dans cette direction, devrait permettre de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques. Et par là, bien sûr, au travers de ces cibles nouvelles, probablement inciter l'industrie à agir dans ces directions. Nouvelle.
Alors je vous propose de marquer une courte pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de André Nioulon et de Joël Bocart pour parler priorité cerveau, des découvertes au traitement. C'est le titre d'un ouvrage publié chez Odile Jacob sous la direction du professeur Olivier Lyon-Camp et du docteur Étienne Hirsch. C'était publié donc en septembre 2010 et ce livre fait suite à un colloque du même titre pour parler des orientations à prendre concernant la recherche sur le cerveau. Revenons donc à notre émission, André Nioulon et Joël Bocart. Parlons, si vous le voulez bien, de ce problème, très certainement qu'il y a du financement qui est le nerf de la guerre, mais surtout d'un problème de structuration en vous écoutant dans cette première partie d'émission. Est-ce qu'il faut repenser le système même de la recherche concernant le cerveau ?
Le repenser en tout état de cause, il faut le faire évoluer. Je crois qu'actuellement, on est déjà devant des évolutions de la structuration de la recherche en général, dans ce pays qui a bougé quand même depuis 3 ans. Ce n'est qu'une étape, il y a encore des améliorations à promouvoir, mais néanmoins, je considère qu'effectivement, aujourd'hui, l'une des avancées dans ce domaine tient à un rapprochement entre les chercheurs cliniciens, les chercheurs biologistes et les malades. Donc ce type de structure doit devoir être développé dans notre pays. On en a un exemple avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Salpêtrière qui a été inauguré la semaine dernière. Mais ce devrait être une structure qui devrait être développée sur ce modèle dans d'autres sites. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Simplement parce que l'une des caractéristiques de la recherche sur le cerveau, de la recherche en neurosciences, c'est son caractère translationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que dans ce domaine, peut-être plus que dans un autre, en tout cas c'est celui que je connais, eh bien on peut, si on s'en donne les moyens, raccourcir le temps entre la paillasse, entre le laboratoire et le lit du malade. Et je crois que c'est à cela que nous devons en partie nous attacher. Bien sûr, développer la recherche en neurosciences, c'est aussi donner des moyens à de jeunes équipes, à des jeunes prometteurs de pouvoir développer leur recherche, mais c'est aussi leur offrir un cadre dans lequel ils puissent se trouver à la fois donc, le laboratoire, le service hospitalier, et ça pose la question de la formation des cliniciens à la recherche en neurosciences, et puis bien sûr les patients. Et je crois que c'est très important que d'associer les trois aspects de ces recherches, les biologistes, les cliniciens et les malades, dans une même démarche au service de la thérapeutique.
Mais parle-t-il le même langage ?
Oui et non, des progrès ont été faits là également, en ce sens que c'est vrai qu'on pourrait arguer que la formation des cliniciens par la recherche et à la recherche n'est peut-être pas suffisante. Je crois qu'objectivement que le vrai problème, c'est que nos collègues cliniciens sont trop pris par l'hôpital aujourd'hui et n'ont pas la possibilité de consacrer plus de temps à la recherche. La raison leur imposerait de travailler dans le domaine de la clinique parce que c'est là que sont leurs besoins quotidiens. Leur cœur penche vers la recherche pour un grand nombre d'entre eux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dans ce cas allier la raison et le cœur. Si on veut être pragmatique et aujourd'hui se préparer à la recherche et aux avancées thérapeutiques de demain, il faut impérativement revoir la formation des jeunes cliniciens dans le domaine de la recherche biomédicale en général et de la recherche sur le cerveau en particulier, en leur donnant les moyens d'être de vrais cliniciens chercheurs, de façon à ce qu'ils puissent avoir le temps matériel de s'immerger dans les concepts de cette discipline qui est la nôtre.
Alors on a bien compris, il y a une double interaction entre le privé et le public et une autre interaction entre les cliniciens
Absolument.
Et les chercheurs. Joël Bocart, quel est votre point de vue là-dessus ? Vous êtes plus mitigé ?
Non, pas du tout, mais bon, je prendrais ça sur un angle légèrement différent. Déjà, bon, comme l'a dit André, il y a un vrai problème de structuration de la recherche en général, dans le monde, mais aussi dans ce pays, par le fait qu'effectivement, c'est indéniable, un certain nombre de moyens ont été mis en place, qui sont d'ailleurs en évolution positive, il faut le dire. Mais la contrepartie de ça, ou enfin en tout cas de notre système, et là vraiment je lance un cri de désespoir pratiquement, c'est la complexité du système. Le temps perdu par les chercheurs dans les démarches administratives, d'évaluation, tous azimuts et permanentes, je le souligne, qui stérilise les jeunes chercheurs, ou les moins jeunes aussi d'ailleurs. Et donc voilà, on fait perdre du temps aux gens par des soucis d'évaluation excessive et d'administration excessive. Donc déjà là. Ensuite, évidemment, ce temps qu'ils n'ont pas, pour faire leurs propres recherches, ils n'ont pas non plus ce temps pour aller au contact des cliniciens. parce qu'ils sont bien sûr normalement obligés, et l'évaluation étant de plus en plus sévère, de se battre au niveau mondial pour bien entendu avoir ce niveau-là, avec quelques boulets, quand même des financements peut-être relativement plus faibles que dans d'autres pays en tout cas, une administration de la recherche qui devient un boulet. Et puis, donc, sous ce temps qu'il pourrait gagner, si on avait moins d'administration, pourrait-il le prendre pour aller voir les cliniciens ? Et réciproquement, comme l'a dit André, les cliniciens sont débordés par la clinique, etc. Et je rajouterais qu'il faudrait aussi, non seulement ces interactions, comme il a dit, cliniciens, chercheurs, etc., mais il faudrait avoir le temps. Et là, moi, je pense que c'est une question de temps. Alors, on peut dire aussi que c'est une question d'organisation. C'est vrai, c'est les deux. D'aller voir les physiciens, les mathématiciens, parce qu'on ne résoudra pas notre déficience en concept sans mettre tout le monde en interaction. Et pour faire des interactions, il faut du temps. Et du temps, on ne l'a pas. Ça, c'est clair. Et c'est, je pense que c'est un des problèmes majeurs de la recherche dans le monde, mais en particulier dans ce pays.
André Nulot, sur ce point.
Oui, simplement, je voulais revenir sur ces caractéristiques de la recherche en neurosciences. J'ai parlé de ce caractère translationnel tout à l'heure et on a développé. Je voudrais maintenant reprendre ce que vient de dire Joël Bockert en disant que le caractère pluridisciplinaire de nos recherches est absolument essentiel. On ne peut pas aujourd'hui réduire la recherche en neurosciences, et je voudrais bien être compris sur ce point, à une préoccupation qui soit uniquement axée sur la thérapeutique et les pathologies. Quoi ? Eh bien, simplement parce que je crois que les progrès des connaissances dans ce domaine, c'est-à-dire la recherche de type cognitif sur le cerveau, celle qui va nous apprendre comment est organisé et comment fonctionne le cerveau, est source d'informations et de progrès pour la thérapeutique. Donc il faut qu'à ces deux niveaux, si vous voulez, de conceptualisation de la recherche, on s'interroge et on développe parallèlement cette recherche vers la thérapeutique et cette recherche cognitive, et faire, et c'est là que c'est évidemment extrêmement important, mais très difficile, faire qu'à un moment, ces deux recherches se rejoignent, se recoupent et s'enrichissent mutuellement.
Alors on a l'impression que cette structuration va qu'à un cas, comme ça. Pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que la France figure parmi les figures de proue dans la recherche sur le cerveau. Est-ce que ça signifie que justement ça marche pas si mal que ça et que vous avez un discours un peu défaitiste ?
Absolument pas, je crois pas qu'on ait un discours défaitiste. Je crois qu'on reconnaît que la communauté dans le domaine est l'une des meilleures, je dirais, au niveau européen à tout état de cause, compte tenu des moyens dont elle dispose, qui ne sont pas les mêmes que nos collègues allemands, suisses ou même britanniques. Donc il y a une communauté de qualité et je crois qu'il faut peut-être aussi s'interroger sur la reconnaissance de cette communauté qui n'est pas suffisamment soulignée, me semble-t-il. Et d'ailleurs, des émissions comme la vôtre contribuent à mettre en avant un petit peu les chercheurs dans ce domaine qui sont souvent des gens qui sont modestes et qui travaillent dans l'ombre, pour lesquels il n'y a pas de résultats médiatiques tous les jours. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important. Cette communauté, elle est active, elle est reconnue internationalement par la qualité de ses travaux. Simplement, effectivement, on a des problèmes de structuration. Ces problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà en partie réglés parce que c'est un mouvement, c'est une dynamique qui a été entreprise il y a déjà plusieurs années. Je donne une illustration. Il y a quelques années, il y avait une recherche sur le cerveau à l'INSERM, il y avait une recherche sur le cerveau au CNRS, il y avait une recherche sur le cerveau dans les universités, dans les hôpitaux, etc. Et tout ça avançait de façon parallèle, mais sans réellement interagir. Aujourd'hui, grâce finalement à des réflexions sur cette structuration, eh bien, on voit, et ça a été notamment bien illustré au cours du colloque, que la création de l'Alliance pour les sciences du vivant, par exemple, et l'Institut thématique multi-organisme des sciences du cerveau, vise à coordonner l'action du CEA, du CNRS, de l'INSERM, des universités, des hôpitaux, autour d'une même problématique. Ça, c'est, de mon point de vue, un vrai progrès. Encore faudrait-il que l'on donne les moyens à l'ITMO Neurosciences de pouvoir réellement avoir une politique et la mettre en œuvre.
Est-ce que les chercheurs sont d'accord aussi pour pouvoir travailler sous cette nouvelle formule, Joël Bockert ?
Ah oui, oui, non, moi je dis que j'étais un peu défaitiste. Non, je ne suis pas défaitiste, je pense que la qualité de la recherche est là. Les moyens, effectivement, un certain nombre de structurations ont été faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont tout à fait positives, mais on voit monter, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, des boulets administratifs et de pertes de temps considérables. Donc là, il y a encore, si je veux dire, beaucoup de productivité à gagner. J'ai dit non, je ne suis pas du tout inquiet pour les neurosciences en France. Le socle est bon, il y a beaucoup de jeunes excellents, il y a beaucoup d'équipes à venir en neurosciences, à type à venir. Hein. Et donc la relève est là, il n'y a pas de problème. Simplement, Moi, ce que je vois autour de moi, c'est ça. Et c'est vraiment un peu bête parce qu'on a un tout petit peu plus de moyens, mais on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Et là, moi, je pense que je l'ai dit, je le redirai. C'est pour ça que j'en profite de votre émission pour le redire.
Mais alors, vous nous avez expliqué un peu tous les points qui pourraient être améliorés, cette structuration qui pourrait être améliorée. Est-ce que les principaux intéressés seraient d'accord pour pouvoir travailler à cette amélioration? Puisqu'il y a cette partie théorique, après le fait de le mettre en pratique, parfois il y a un décalage. Sur les chercheurs, par exemple.
C'est un peu le sens de cette manifestation priorité cerveau. Qu'est-ce que c'est priorité cerveau? C'est simplement une opération de sensibilisation des pouvoirs publics qui a été déclenchée à l'initiative de trois dimensions, je dirais. La Société des neurosciences mettant en avant l'excellence de sa recherche et disant « Écoutez, on a un potentiel à exploiter, mais aujourd'hui, on est un petit peu limité parce qu'on a du mal à s'exprimer ». La deuxième communauté, c'est celle des chercheurs en neurologie et en psychiatrie, qui dit « Nous, on sait traiter les patients, mais donnez-nous les moyens d'aller plus loin dans le plan de l'innovation thérapeutique, et pour l'instant, on est également un petit peu limité. » Et la troisième communauté, qui est illustrée par la contribution de la Fédération pour la recherche sur le cerveau, c'est-à-dire finalement les malades, et donc ces associations de malades nous disent « Nous, on est partie prenante de la thérapeutique et des progrès thérapeutique, et donc nous, on veut être associés, nous sommes des citoyens. Dans ce pays, il s'agit finalement d'une dimension politique, on peut se donner les moyens d'aller plus loin si véritablement il y a une volonté politique pour aboutir. Et nous, patients, on veut contribuer de la même manière que les chercheurs à notre niveau. » Je crois que c'est tout cela qui fait la richesse de ce colloque et qui fait que peut-être les objectifs seront atteints, en tout cas ces objectifs de sensibilisation. Et moi, j'ai tendance à dire que la structuration, les moyens, ça viendra naturellement à partir du moment où la prise de conscience des pouvoirs publics, qu'objectivement, les moyens qui sont mis sur la recherche, la structuration de la recherche n'est pas à la hauteur des enjeux, eh bien, à partir du moment où ce message, finalement, aura été intégré par les gens qui ont la décision, je pense que tout devrait s'améliorer. Et surtout, on devrait, de ce point de vue-là, et je rejoins là encore Joël Bocquart, on devrait arrêter un peu la désespérance d'une catégorie de jeunes chercheurs extrêmement brillants qui s'interrogent après leur formation et qui souvent partent à l'étranger et y restent. Parce qu'on leur offre des conditions pour pouvoir s'exprimer dans le domaine de la recherche, au moment même où ils ont un potentiel qui est fabuleux, c'est juste après, à la fin de leur formation, eh bien, ces gens-là ne reviennent pas parce que dans notre pays, on n'est pas capable de leur offrir, en dépit d'un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place et qui ont donné un certain nombre de résultats. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine.
À l'issue de ces conférences, de ces réflexions, vous avez émis 10 priorités. Alors, sans peut-être pour autant toutes les égrener, quelle est l'idée générale de ces 10 priorités, André Niollon?
L'idée générale, elle est assez simple. On ne va pas effectivement passer en revue ces 10 points, mais il y a schématiquement deux aspects importants. Le premier, c'est un aspect de structuration. Donc, on l'a évoqué largement cet après-midi, et c'est tant mieux, au-delà, je dirais, des résultats, parce que les résultats de la recherche, on peut en trouver des échos dans les médias. Mais par contre, ces aspects de structuration sont rarement évoqués, donc je crois que c'est le point sur lequel on insiste tous les deux. Et puis, il y a un aspect, je dirais, de prise en charge médico-sociale, c'est-à-dire qu'il faut que cette recherche en neurosciences, caractérisée par son côté translationnel, par son côté pluridisciplinaire, eh bien, puisse effectivement maintenant être efficace, augmenter son efficacité au service des patients. Et nous en avons les moyens. Il ne nous manque pas grand-chose pour pouvoir aboutir dans un certain nombre de domaines, que ce soit le domaine de la maladie d'Alzheimer, pour laquelle il y a un certain nombre d'informations qui peuvent nous rendre optimistes quant à la suite, notamment en termes de ralentissement de l'évolution de la maladie, ce qu'on appelle la neuroprotection, par exemple. Donc, il y a des perspectives qui sont réelles en termes de résultats scientifiques. Maintenant, il faut aussi considérer que les progrès de la recherche doivent être également tenus en parallèle de progrès sociaux et de progrès médicaux. Donc tout ça, c'est un tout et on ne peut pas le dissocier. Et j'ajouterais qu'il y a aussi un certain nombre de questions d'éthique qui sont posées par les progrès des neurosciences et que ceci nous amène également donc à alerter les pouvoirs publics sur le fait qu'il peut y avoir des dérives et que la communauté est parfaitement consciente de son pouvoir actuel, il s'agit d'un vrai pouvoir, mais que ceci doit être encadré, peut-être par des textes nouveaux dans le registre, par exemple des lois sur la bioéthique.
Alors effectivement, nous n'avons pas eu le temps de parler de la prise en charge médico-sociale ou encore du point de vue éthique, mais peut-être cela fera-t-il l'objet d'une autre émission. Joël Bockaert, alors comment vous voyez l'avenir de la recherche sur le cerveau dans les années à venir ? Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ?
Je suis plutôt optimiste, nécessairement optimiste, parce que vu l'importance des problèmes, même si on ne voulait pas s'en occuper, on va être obligé de s'en occuper. Donc de ce côté-là, je suis particulièrement optimiste. On a vu les problèmes médicaux, les problèmes sociétaux reliés aux neurosciences, et je dirais, peut-être pour conclure, quitte à fâcher mes collègues d'autres disciplines, c'est que le cerveau reste la dernière frontière quand même, une dernière frontière à franchir dans la compréhension du vivant. Bon, le reste, bon, ok, il faut beaucoup travailler, il y en aura pour quelques centaines d'années pour bien comprendre la physiologie rénale, mais je ne pense pas qu'en physiologie rénale ou cardiaque même, encore plus je crois, d'énormes nouveaux concepts soient à découvrir. Des concepts intéressants, des nouvelles pistes intéressantes de compréhension, mais à mon avis, il n'y a pas de frontière. Alors que dans le cerveau, pour la compréhension du cerveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de concept nouveau, une frontière à franchir. Et voilà, il faut travailler pour ça. Je pense que les hommes travailleront pour comprendre leur cerveau, j'en suis persuadé.
André Nulon, le mot de la fin, tout ceci c'est une première étape. Quelle est la seconde étape ?
La seconde étape, c'est de constater que les pouvoirs publics ont été sensibles à nos actions. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une réflexion qui sera entreprise avec des propositions qui viendront concrétiser peut-être un certain nombre de points qui ont été soulevés par la communauté. Donc, j'ai un peu tendance à dire que maintenant, la balle est dans le camp des décideurs du domaine politique. Je crois objectivement qu'elle doit réaliser que la communauté est tout à fait prête à évoluer dans le domaine de la conception même de la recherche. Ça nécessite des moyens, ça nécessite des gros équipements, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut des machines qui sont extrêmement sophistiquées, ce qu'on appelle des plateformes, en particulier dans le domaine de l'imagerie, mais pas seulement. Et donc tout ceci nécessite des efforts qui ne sont pas uniquement des efforts qui doivent venir des pouvoirs publics, des efforts de la communauté aussi. Mais je crois que c'est mûr et que ça peut nous rendre optimistes pour un avenir proche.
Merci, c'était le mot de la fin. Je rappelle le titre de cet ouvrage que l'on peut retrouver en librairie, « Priorité cerveau, des découvertes au traitement », publié en 2010 aux éditions Odile Jacob sous la direction du professeur Olivier Lyon-Caen et du docteur Étienne Hirsch. Vous aviez bien sûr participé tous les deux, mais il y a également la participation de nombreux autres chercheurs et cliniciens. Je ne pourrais pas tous les citer, ils sont très nombreux. Merci et à bientôt pour de prochaines émissions sur Canal Académie. Merci.